Est-ce qu'on est là?
Ah, on est là.
Il est 19h. Et oui, tout ça pour dire ça en plus. Il est 19h et pourtant, nous ne sommes pas en Corrèze.
Hein?
19.
Oui.
19, la Corrèze, quoi. Enfin,
non, je vois pas.
Bah si, bonjour, je suis député de la Corrèze. Vous savez, on passe plus de temps à ne pas être en Corrèze dans sa vie qu'à être en Corrèze dans sa vie. C'est de moi. Et tout ça, je l'ai trouvé grâce à ce département, dont le code postal est 19, comme leur...
On dirait pas comme ça, hein, mais ce soir, c'est la matinale zygomatique.
La matinale de 19. La matinale zygomatique. Radio Campus Paris sort de ses studios et s'installe à l'Académie du Climat pour une soirée hors les murs très spéciale. Au programme, 2 heures de matinale zygomatique. Le crossover sérieusement satirique qui rit de l'actu au lieu d'en pleurer. Ce soir, nous profitons de cette fin de printemps à la buvette du climat pour 3 heures d'émission en direct. De 19h à 22h.
Bonsoir à tous et à tous.
Et bienvenue dans la matinale... Riez. Bienvenue dans la matinale zygomatique. On est en direct et en public de l'Académie du Climat, de Place Baudoyer, dans le premier arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a des gens à l'Académie du Climat ce soir? Si jamais vous nous écoutez en direct et que vous êtes en train de nous rejoindre, évidemment, on est à la buvette. Hein,
et précisément important. Dans la bulle de la buvette.
Dans la bulle de la buvette, parce que ça fait des bulles.
Je suis Mayouen.
Et je suis Simon, merci.
Et pendant non pas une, non pas deux, non pas quatre, mais bien 2 heures, on vous propose un crossover qui réunit la meilleure émission de Radio Campus Paris.
Et la matinale de 19h. On va apprendre des trucs, on va rigoler et parfois on va faire les deux en même temps. Et ce soir, à n'en pas douter, nous allons parler des vrais sujets.
Et oui, c'est vrai, il est temps puisqu'après une saison de matinale de 19h où on aura parlé de la Palestine, du droit des enfants ou encore de l'urgence climatique. Là,
et une saison du monde zygomatique où on aura parlé une émission sur deux de nazis, où on s'est demandé si le cancer de la prostate est une maladie professionnelle.
On va parler ce soir, et non, c'est à moi Simon,
c'est vrai, oui, je
de quelque chose de sérieux, la sécurité.
Et oui.
Et oui, car il est temps de voir les choses en face.
Gauchias !
Bruno Retailleau a raison, il y a une submersion pesticidatoire dans le pays.
Et on ne peut pas douter de la sincérité du ministre de l'Intérieur, puisqu'il a vécu cette invasion au cœur du Fruit du Fou, où il a travaillé moulanée.
Face à ça, une solution, dressons des frontières entre les plants de tomates et les radis, collons des occucurbités, je me suis trompée de fils, je crois.
Si, non, c'est très bien, c'est très bien. Dressons des frontières entre les plants de tomates et les radis.
Non, mais...
Interdisons le port de la charlotte dans les cuisines.
Non, Simon.
Battons-nous contre flancs et marbrés.
Simon.
En long, en large et en jachère.
Non, Simon, on s'est trompé, on va parler de sécurité sociale, de l'alimentation.
Ah bon?
Non, mais t'inquiète pas, ça va nous servir pendant le reste de l'émission d'avoir mangé du clown.
Merci pour votre bienveillance. Mais la matinale zygomatique, Mayouen, ce n'est pas que des blagues, c'est aussi de la drôlerie, de la facétie et de la rodomontade. Mais encore de la galéjade, de la sottise et de la tabatière.
Mais ce n'est pas que le résultat de blagues dans la barre de recherche de synonymo.fr, c'est aussi
de l'information.
Et
évidemment.
Oui, quel modèle alimentaire pour l'avenir? Alors que nos assiettes verront bientôt les conséquences de la loi du plomb passée en force à l'Assemblée avec le concours de la FNSEA et que l'urgence climatique oblige à un changement de modèle économique et agricole, l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation fait son chemin dans le pays. On en parle toujours à moi dans un court instant avec Charles Fournier, député Les Écologistes à l'Assemblée nationale et rapporteur de la proposition de loi d'expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Ça fait beaucoup de sion. Et on sera aussi avec Adi, membre de la Marmite Rouge, association qui milite pour la création de cette sécurité sociale de l'alimentation dans le 12e arrondissement de Paris.
Et après cette discussion qui s'annonce évidemment passionnante, on retrouvera Maxime qui animera un petit jeu.
Ah ouais, ce sera quoi comme jeu?
C'est un jeudi. C'est au 10 juin.
20h15, personne rigole.
C'est vraiment... Mais si, elle est super. Depuis lundi, on la travaille,
celle-là. On est parti pour deux bonnes heures. Vers 20h15, on retrouvera Martin Rousseau du label Cracky Records et Fantin du collectif de DJ La Mamise. Ils organisent tous les deux le Maki Festival qui célèbre sa 10e et dernière édition. C'est 14 et 15 juin prochain entre Bobigny et Paris.
Et le tout sera saupoudré de la crème du café, de la crème du marron, de la crème...
Du meilleur des chroniqueuses de nos deux émissions. Côté matinale de 19h, on retrouvera la chronique de Léo vers 19h42, celle de Fabien vers 20h11 et Léa vers 20h35.
Et côté mondigomatique, on entendra Delila vers 19h35, Sofiane vers 53, Juliette vers 20h27 et Sébastien qui fermera la danse vers 20h37 avant un dernier petit jeu, et il y a de la concurrence, qui nous emmènera doucement vers 21h.
Nouez votre bavoir et attachez vos ceintures, c'est parti pour deux heures d'émission.
La matinale zygomatique.
Charles Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député des écologistes de la première circonscription d'Indre-et-Loire et vous étiez en octobre 2024 rapporteur d'une proposition de loi d'expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. C'est bien, il faut le répéter.
Ça rentre.
Elle était à l'agenda de la niche parlementaire des écologistes, mais n'a pas pu être débattue, manque de temps.
En même temps, la longueur du non faisait que...
Ça prend la moitié de la séance.
Et bonsoir Adi, vous intervenez au nom de la Marmite Rouge, donc c'est une association qui milite pour la création de cette sécurité sociale de l'alimentation justement, et on va en parler plus tard, mais vous avez au cours de l'interview, vous avez lancé en 2023 une expérimentation du dispositif dans le 12e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous deux. La Marmite Rouge fait partie du collectif pour une SSA, Sécurité Sociale de l'Alimentation, on va le redire souvent SSA, et on vient bien insister sur le A. Aux côtés d'une trentaine d'organisations comme ISF Agrista, la Confédération Paysanne, Réseau Salaria, l'Atelier Paysan et VRAC.
Merci à vous deux d'être avec nous en plateau. On va faire une interview qui durera une trentaine de minutes et on a plein de choses à voir.
Alors, ça va être super.
On a une première question qui est un petit peu pour vous deux, peut-être pour Adi qui peut parler au nom du collectif pour la SSA. Vraiment une question toute simple. Qu'est-ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation ?
L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'étendre la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'alimentation. L'idée étant que demain, tout le monde ait une carte vitale de l'alimentation avec laquelle il et elle peut aller faire ses courses. C'est une façon de redonner le pouvoir d'agir sur notre système alimentaire aux mangeurs et aux mangeuses, mais aussi de mieux rémunérer les producteurs et les productrices et vraiment de faire en sorte que l'alimentation et l'accès à une alimentation digne et de qualité, ce soit un droit et ce soit pas le marché qui régule cet accès-là et pas non plus la charité via l'aide alimentaire, par exemple.
On va en parler effectivement de l'aide alimentaire. Charles Fournier, est-ce que vous partagez cette définition ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Je partage totalement cette définition et d'ailleurs je trouve ça plutôt joyeux de pouvoir imaginer que la sécurité sociale, c'est pas simplement un trou dont on vous parle régulièrement, dont vous auriez la responsabilité, mais que c'est aussi la possibilité d'élargir les champs à investir dans notre vie. Il y a l'alimentation, on pourrait parler de la culture par exemple, on pourrait parler, c'est moins gai, de la mort. Et aujourd'hui, un marché, c'est le marché qui s'est saisi de ces questions-là. Et donc, cette sécurité sociale de l'alimentation, depuis 1945, nous ne nous sommes pas autorisés à imaginer qu'elle puisse aller sur d'autres champs. Donc, je dirais ça en complément. Je dirais aussi peut-être deux points qui me paraissent importants. C'est une réponse à plusieurs problèmes en même temps. 38% des Français disent avoir eu une fois dans leur vie recours à l'aide alimentaire. 20% des paysans vivent sous le seuil de pauvreté. Et on dépense par an dans notre pays environ 19 milliards d'euros en raison des problématiques de malbouffe. 19 milliards, c'est le coût direct et indirect. Vous prenez ces trois sujets-là, la sécurité sociale, de l'alimentation permettra de répondre à ces trois enjeux-là. D'améliorer les revenus, de permettre à chacun de choisir son alimentation et d'accéder à l'alimentation. Et puis ça permet aussi de régler des problématiques de santé publique. Vous voyez, c'est du 3 en 1, la sécurité sociale de l'alimentation. Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Et on a besoin d'avoir des très belles idées en ce moment.
On va en parler aussi des idées un peu plus tard, mais d'abord, est-ce que la SSA s'ancre dans l'idée d'une souveraineté alimentaire ? La souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat public. Est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation rentre dans cet enjeu-là ?
Quand on parle de souveraineté, c'est vrai que moi j'entends aussi l'aspect démocratique. Et c'est vrai que c'est un enjeu vraiment central de ce projet de SSA, c'est de se dire comment on peut collectivement reprendre le pouvoir sur... sur l'alimentation, sur un système aujourd'hui qui nous dépasse, le système agroalimentaire. En fait, on est très peu, on le connaît pas bien, et on en est totalement dépendant. Donc en termes de souveraineté, dans un monde demain avec une sécurité sociale de l'alimentation, on permet à tout le monde, à tous les mangeurs et les mangeuses de décider elles-mêmes des critères de conventionnement, de qu'est-ce qui est pris en charge par la sécurité sociale de l'alimentation, de pouvoir aussi transformer notre système de production, et ça devient un peu technique, mais de passer à un système de l'offre plutôt qu'un système de la demande, et que nous, on puisse décider aussi avec les producteurs et les productrices, mais d'un système qui nous convienne. Après, quand on parle de souveraineté, on entend souvent un truc très franchouillard, je ne sais pas, la souveraineté de notre nation. La SSA, pas forcément. En fait, ça peut aussi être l'alimentation. Il n'y a pas de critères prédéfinis de ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut conventionner. Et par exemple, l'alimentation, c'est pas que un apport calorique. C'est aussi profondément social. C'est profondément culturel. Donc, d'avoir accès à des denrées alimentaires qui viendraient de l'étranger, c'est aucunement interdit dans un fonctionnement de SSA. Au contraire.
Ouais, peut-être un complément sur... Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté.
En quelques mots.
Ouais, on parle beaucoup de souveraineté, mais c'est un mot un peu mal mené. Et si on, il y a même des visions très souverainistes de la souveraineté, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et il faut qu'on fasse les uns et les autres attention à ce qu'on veut dire. Et je partage totalement ce que tu as dit. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est la maîtrise démocratique de ce dont nous dépendons. C'est ce dont nous dépendons et ce que nous voulons avoir en autonomie. Et c'est ça la souveraineté, c'est pas le repli sur soi identitaire, vous voyez, il y a certains qui pensent que c'est ça, mais c'est pas ce qui est raconté là. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, elle participe forcément d'une relocalisation de la production, d'un choix par les citoyens de leur alimentation, et quand on leur laisse choisir, ils choisissent plutôt ce qui est bon pour leur santé, bon pour leur territoire.
Ouais, merci. Et alors, enfin, justement, vous avez parlé de démocratie qui est assez centrale dans le concept. J'ai une question un peu technique, vous parlez donc de sécurité sociale, il y a un vrai... lien avec la sécurité sociale de la santé, qui est le système actuel en France, et qui fonctionne à travers des cotisations, à travers des caisses. Comment ça s'organiserait en théorie, cette sécurité sociale? Est-ce qu'il y a, de la même manière, un système de cotisation? Vous avez parlé de carte vitale pour faire des courses tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus?
Ben oui, tout à fait. Il y a un système de cotisation dans l'idée de se dire, justement, la démocratie alimentaire... ce que permettrait en fait une cotisation plutôt qu'un système de taxes ou d'impôts, c'est que les mangeurs et les mangeuses puissent avoir le contrôle sur cet argent-là, qui n'est pas contrôlé par l'État, mais qui est bien contrôlé dans des caisses de l'alimentation. Et on oublie souvent, moi c'est quelque chose qui a été très fort dans mon militantisme, l'histoire de la Sécu est telle qu'elle avait été créée en 1946. On avait un vrai pouvoir en tant que travailleurs et travailleuses dans ces caisses de la Sécu, pour décider nous-mêmes de ce qu'on faisait de cet argent. L'argent, ça peut aller vers les cartes vitales de l'alimentation, ça peut aussi être plus lié à la production et d'aller directement aider, accompagner des productrices pour changer leur méthode de production. Donc il y a vraiment cet aspect, on veut avoir le contrôle dans les caisses de l'alimentation au niveau de chaque territoire. Après, la bonne échelle, ça reste à discuter, mais qu'on puisse décider au niveau de chaque territoire de ce qu'on fait de cet argent-là, qui passerait donc par la cotisation.
Merci.
Charles Fournier.
Oui, non, le principe de la cotisation, en fait, l'idée, c'est que chacun reçoive, on ne l'a pas dit depuis le début peut-être, mais une allocation alimentaire chaque mois. Bernard Arnault aussi recevrait cette allocation alimentaire. Je dis ça parce que ce serait à Non, mais en même temps, c'est important. Ce serait...
On peut donner des carottes.
Un des principes, c'est que c'est universel. Et donc, pour la maladie, viendrait l'idée de personne que des gens n'aient pas le droit d'accéder à la protection pour la maladie, pour la perte d'emploi. Par contre... on paye à hauteur de ses moyens. On reçoit en fonction de ses besoins, on paye à hauteur de ses moyens. Et donc l'idée de la cotisation, alors il y a plusieurs formes de cotisation, il faut le dire, hein. Il y a des cotisations salariales, patronales, on peut aussi taxer le capital, on peut réorienter un certain nombre aussi de dépenses qui sont faites par l'État pour financer ce système-là. Et c'est tout à fait possible de le faire. Mais l'idée, c'est de socialiser cette question alimentaire, de la sortir des seules règles du marché, de faire en sorte que chacun accède à une allocation. Mais il ne pourra acheter avec cette allocation que des produits, comme tu l'as dit, conventionnés ou dans des lieux conventionnés. Donc, ce n'est pas n'importe quel produit que vous pourrez acheter avec ça. Et donc, 150 euros, c'est une moyenne. Hein, parce que sur les territoires ultramarins, par exemple, je pense que ça ne marcherait pas forcément si on restait sur cette somme. Et aujourd'hui, certains expérimentent 100, d'autres 50, d'autres systèmes avec plusieurs prix pour les aliments. Un prix solidaire, un prix juste, un prix en deçà qui permet à des gens qui n'ont pas les revenus d'accéder à des produits. Voilà. Donc, il y a plein de variantes et c'est ça l'intérêt des expérimentations d'ailleurs.
Et dans l'expérimentation, a dit justement à l'échelle de la Marmitrouche, ça s'est beaucoup basé autour de la baguette tradition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concrètement comment ça se passait et pourquoi ce produit spécifiquement?
Ouais, Donc en l'été 2023, on a fait une espèce de micro-expérimentation dans le 12e arrondissement sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et toutes les expérimentations sont évidemment imparfaites. On ne pouvait pas se lancer dans un projet de SSA. On était là, quelques militants dans le 12e. Donc on s'est recentré sur un seul produit, qui était effectivement la baguette tradition, en se disant que le pain, c'est un produit, et la baguette notamment, que toutes les classes sociales justement consomment. Et la baguette tradition, particulièrement, était aussi gage de qualité. C'est il y a que de l'eau, de la farine, du levain et du sel tout le temps. Il n'y a pas de surgélation. Et ça nous permettait de se dire, bon, on a quand même une garantie de qualité et c'est un produit qui touche tout le monde. C'était une bonne porte d'entrée pour parler de SSA. Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on explique un peu le fonctionnement de l'expérimentation.
Oui, si, carrément, vous pouvez développer. Et aussi, comme c'était à l'été 2023, ouais. Est-ce que cette initiative a donné naissance à d'autres expérimentations depuis, sur d'autres produits, ou peut-être sur une échelle d'action un peu plus large?
Au niveau de la marmite, on n'a pas encore relancé d'expérimentation, mais c'est bien le plan, le projet. Après, on se questionne beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'expérimentations différentes et c'est aussi ce qu'on prône, c'est de se dire il y a certaines grosses expérimentations avec des centaines de personnes qui font partie, certaines qui sont plus axées sur la production, d'autres qui sont plus axées sur un type de public particulier, sur les étudiants, sur... Enfin, en fait, il y a tellement de choses à expérimenter et c'est toute la richesse des expérimentations. Et in fine, si on refait le parallèle avec la Sécu de la Santé, ben, c'était pareil avant la mise en place en 1946. En fait, ça faisait des décennies qu'on mettait en place plein d'expérimentations et de tester pour que le jour où on mette vraiment en place la SSA, on puisse la mettre en place. Donc nous, on y réfléchit actuellement et notamment à s'associer à d'autres acteurs au sein du 12e pour essayer de travailler encore plus l'aspect démocratique de notre expérimentation. Mais si vous voulez réfléchir avec nous, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. On n'a vraiment pas encore acté la forme que prendrait une expérimentation un peu plus large dans le futur.
Et est-ce qu'il y a des interactions que vous pouvez avoir avec d'autres collectifs qui militent pour l'instauration de la SSA ailleurs que dans le 12e, possiblement ailleurs qu'en Ile-de-France? Ouais. Et si oui, comment vous dialoguez? Et aussi, pour que Charles Fournier puisse y rebondir, est-ce que, justement, quand vous avez réfléchi la proposition de loi qui n'a pas pu être votée, mais qui a été présentée à l'Assemblée, comment vous avez dialogué avec tous ces collectifs-là? Alors, d'abord, Adi.
Mais complètement. En fait, c'est aussi une des richesses et moi, une des joies de mon militantisme actuellement. Mais c'est que le projet de SSA, il se décline dans tellement d'expérimentations un peu partout en France, à des échelles différentes. Et on fait partie, nous, Marmite Rouge, du collectif national pour la sécurité sociale de l'alimentation, où on essaye ensemble de réfléchir d'un point de vue aussi théorique, de faire avancer les débats sur à quoi ressemblerait une sécurité sociale de l'alimentation, et de s'enrichir les uns des autres des expérimentations et des méthodes de paiement, par exemple, que les uns les unes ont utilisées. Et on se retrouve, on utilise des canaux modernes de communication. On a un Frama, etc.
Comme le Minitel, bien sûr, le fax.
Mais ceci dit, on s'appelle également, le téléphone est là également. Et on se retrouve, on organise des week-ends du collectif qui sont toujours extrêmement riches de débats et d'apprentissage les uns des autres. On essaye de faire collectif là-dedans.
Charles Fournier, en quelques mots.
Deux choses. D'abord, peut-être dire que la proposition, elle a été votée. Elle n'a pas été votée dans l'hémicycle, mais elle a été votée en commission. Je veux le dire parce que c'était absolument imprévu qu'on puisse gagner, avoir une majorité en commission sur un tel sujet. C'était à une voix, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais c'est passé. Donc, je pense qu'il y a une étape qui a été franchie. C'est quand même très, très intéressant. Moi, si j'ai fait cette proposition, c'est bien parce qu'il y a des expérimentations partout. Il y en a une quarantaine, même plus aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas toutes identifiées. Elles ont des formes très différentes. Et c'est parce qu'il y a des gens extrêmement intelligents qui ont pensé ça et qui le mettent déjà en vie. Et c'est déjà en vie. Et partout, dans ces expérimentations-là, il y a évidemment, elles sont de tailles différentes, mais évidemment, celle qu'on cite souvent, c'est Montpellier. Mais vous avez la Gironde, à l'échelle du département de la Gironde, il y a plusieurs caisses alimentaires. Vous avez Dieulefi. C'est une commune dans la Drôme. Donc, on a une variation de pratiques qui sont
là. Oui,
il y
en a une ça, qui vient de démarrer, d'ailleurs, en mai dernier à Brest.
À Brest, à Tours, chez
ça
moi.
Ça émerge de partout.
Non, il y en a partout. Et donc, l'idée, c'était de donner un cadre possible à ces expérimentations parce que le risque, c'est qu'elles sont en inégalité sur la capacité à faire et notamment sur les moyens.
On va continuer de parler de ça. C'est déjà assez passionnant. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Charles Fournier et Adi. On continue de parler de cette sécurité sociale de l'alimentation dans un court instant.
Eh oui, mais c'est pas tout, car moi, cette discussion m'a donné faim et ça tombe bien parce qu'on va écouter Lunch de Billie Eilish.
I didn't pack up for lunch. chair, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Huh?
C'était Lunch de Billie Eilish, et si après ça vous n'êtes pas rassasié, je ne peux rien faire pour vous.
La matinale zygomatique.
19h24, vous écoutez la matinale zygomatique en direct et en public de l'Académie du Climat à Paris. Rejoignez-nous. Et depuis 19h, on échange avec Charles Fournier, député des écologistes d'Indre-et-Loire, j'ai oublié de le préciser, à l'Assemblée nationale et rapporteur de la proposition de loi vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et on est aussi avec Adi, membre de la Marmite Rouge, qui est une association qui milite et qui expérimente aussi la création de cette sécurité sociale de l'alimentation dans le 12e arrondissement. On va reprendre sur ce qu'on disait juste avant la pause musicale. Charles Fournier, vous parliez de cette adoption de l'expérimentation, de la proposition de loi d'expérimentation en commission à l'Assemblée.
Affaires économiques,
ouais. En commission des affaires, des affaires économiques. Comment ça s'est passé et quelle est la suite après ce vote?
Ce que je disais en aparté à Adi, c'est que sur ce sujet, j'ai entendu au départ les mêmes arguments qu'en 1945 pour dire combien c'était une idée folle. Ça allait coûter cher, pourquoi c'était universel, que ça allait fausser le marché. Ça allait créer une concurrence déloyale dans le marché, ce qui est quand même absolument dingue d'entendre tout ça. Mais finalement, comme c'était une expérimentation, c'est-à-dire en gros, on propose pour 5 ans de tester le dispositif, de soutenir ces expérimentations. Vous avez peut-être entendu parler de Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une loi d'expérimentation qui permet de tester aussi le fait de réorienter des cotisations chômage vers des emplois d'utilité dans des territoires. C'était un peu la même idée. Et le coût pour 5 ans, c'était 35 millions d'euros par an, ce qui n'est, dans le budget de l'État, pas énorme. C'est des chiffres qui peuvent paraître gros, mais c'était peu par rapport aux 120 ou 130 milliards que coûterait le dispositif par an en cotisation s'il existait. Et donc ça a évité toute caricature, en dehors du Rassemblement National qui a caricaturé cette proposition.
Ah bon ?
Ouais. Ah ouais. Bon. Elle disait que c'était de l'assistanat, ce qui est quand même un peu dingue, quoi, parce que c'est tout le contraire de l'assistanat, puisque chacun cotise, voilà, participe au dispositif. Et donc les débats ont été plutôt apaisés. Malheureusement, quand vous êtes dans une niche, à minuit tout s'arrête. Vous êtes maître de l'ordre du jour, à minuit ça s'arrête. Moi j'ai présenté le texte à 23h35. Autant dire qu'il me restait 25 minutes, mais on avait adopté avant la taxe Zuckman, donc c'était pas mal.
Donc, juste pour préciser, c'était pendant la niche parlementaire des écologistes, pour les personnes qui ne seraient pas forcément au fait des...
C'est une journée, la niche, voilà, c'est la journée où les groupes de l'Assemblée nationale maîtrisent l'ordre du jour, où on présente nos textes. Donc nous, on a fait adopter une loi sur les PFAS ce jour-là, la taxe Zuckman, qui n'a malheureusement pas été adoptée aujourd'hui au Sénat, ce qui est vraiment dommage, et puis il y avait cette proposition de loi, adoptée en commission, mais pas adoptée dans l'hémicycle. Voilà, on repart à zéro, là.
Alors justement, donc ça repart à zéro, il y a une suite législative maintenant. On se demandait avec Simon comment cette idée elle survit au sein de votre groupe écologiste et plus globalement au sein du Nouveau Front Populaire ou de ce qu'il en reste.
Et si ça ne survit pas chez les écologistes, pourquoi c'est la faute de Yannick Jadot aussi?
Alors le Nouveau Front Populaire, c'est plutôt, est-ce que le Nouveau Front Populaire résiste et subsiste? Ouais. Ça serait une vraie bonne question, mais ce n'est pas le sujet du soir. Non, je crois que c'est une idée qui...
En vrai, c'est une émission d'humour, on peut en parler.
Humour est permis, alors je vais y aller. Non, je pense que elle était défendue à peu près par tout le monde au sein du Nouveau Front Populaire avec des variations. Hein. Il y avait des gens qui peut-être avaient des visions un peu différentes, mais globalement, ça portait et ça rassemblait le NFP autour de cette idée-là. Donc ça va continuer à avancer. Les voies pour pouvoir continuer à la faire avancer, il y a un des élections municipales qui vont venir et c'est vraiment des projets territoriaux qui s'ancrent dans les réalités de nos vies. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer pour aller le porter dans les élections municipales pour que les expérimentations se multiplient. J'essaye de trouver un groupe de la majorité qui serait d'accord pour porter ce texte avec moi parce que ça me permettrait de le réinscrire à l'ordre du jour beaucoup plus vite. Sinon, il faudrait attendre un an et c'est un peu long. Je discute avec un député du Modem qui se dit favorable à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc il y a des voies pour la faire avancer. Et Yannick Jadot pourrait la porter au Sénat aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ah bah voilà,
c'est
on compte sur lui. On se demandait également aujourd'hui quels sont les principaux freins à l'instauration d'une SSA concrètement en France.
Adi, je ne sais pas si vous l'avez dans les expérimentations, vous avez vécu. Ou pas, hein, là, c'est vraiment...
Ou plutôt Charles Fournier, ouais. Du coup.
Non, mais peut-être alors pour l'instant, il faut le dire, on n'expérimente pas vraiment la sécurité sociale de l'alimentation parce qu'un des principes, c'est l'universalité de la cotisation, c'est le fait que ça concerne tout le monde. Et en fait, on ne peut contraindre personne aujourd'hui, la loi ne le permet pas, donc c'est des cotisations volontaires. Et un des freins, c'est quand on regarde par exemple la caisse alimentaire de Lyon, vous avez à peu près 60% des cotisants qui sont des cotisants qui n'ont pas de ressources. Et vous n'avez que 10% des cotisants qui ont des ressources suffisamment importantes. Vous voyez que ça ne matche pas. Mm-hmm. Parce que quand on distribue une cotisation à tout le monde, y a pas les ressources en face. Donc il y a un vrai problème de financement et ça reste un frein. Pour l'instant, c'est de l'argent public qui vient compenser, mais il n'y a pas de l'argent public partout et de manière égale. Donc ça, c'est un vrai frein. Le deuxième frein, c'est quand même aussi les coûts de fonctionnement d'une... Pour que ça marche, il faut animer. Il faut des ressources humaines, il faut des gens qui soient là pour porter et faire vivre le dispositif. Et là aussi, il faut des financements. D'où l'idée d'un fonds d'expérimentation dans cette loi qui était pour rendre possible, parce qu'il ne faut pas que, si dès le début de l'expérimentation on commence déjà à se dire est-ce que le mois prochain on va être capable de la faire vivre, vous voyez, il y a un problème, ça va affaiblir cette idée-là, donc il faut lui donner des ressources. Donc c'est, je pense, le principal frein aujourd'hui. Par ailleurs, je crois qu'il y a un intérêt, un engouement qui est quand même assez extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Vas-y. Que j'allais peut-être enrayer là-dessus, c'est peut-être, j'ai eu du mal à répondre à votre question, mais en me disant, en vrai, quel frein quelque part, je trouve ça aussi normal que ça prenne un peu de temps et de respecter le temps de ce militantisme et de pas d'aller trop vite au risque que ce soit récupéré. Au risque de vouloir aller trop vite, qu'on n'instaure pas une SSA qui serait vraiment révolutionnaire comme en fait la Sécu l'a été. Et moi, je vois justement aujourd'hui, c'est énorme, enfin, c'est trop chouette, ça grandit tellement vite ce projet-là. Pour l'instant, je trouve qu'on avance en fait vraiment bien sur ce sujet et on apprend de nos erreurs aussi qu'on a pu faire pour la Sécu de la santé et comment petit à petit elle a été attaquée. Dès 46, on a commencé à essayer d'attaquer la Sécu et on a perdu petit à petit le pouvoir démocratique dessus. Donc je dirais que le frein de la SSA, c'est qu'on a beaucoup à inventer, beaucoup à réfléchir, mais c'est super chouette et ça fait partie de toutes ces discussions. Après, sinon, on dit le plus gros frein, c'est notre rapport de force. actuellement, qui n'est pas le même qu'en 1946, effectivement, quand le PC et les syndicats étaient beaucoup plus forts. Aujourd'hui, on est petit à petit en train de perdre nos droits. Mais c'est aussi ce qui, moi, me pousse, c'est de me dire, plutôt que toutes les luttes précédentes ou d'aller en manif pour défendre des droits qu'on est en train de perdre, c'est de là de mobiliser pour un imaginaire positif et de se réapproprier quelque chose de... Ah, franchement, ça fait du bien, quoi. On milite pour et pas que contre.
Et justement, l'imaginaire, on voulait un peu ouvrir là-dessus aussi avec cette discussion sur la sécurité sociale de l'alimentation. Ça, c'est avec vous, Adi, parce qu'à la Mère Mitrou, je vous proposais des fresques pour éduquer au principe de la SSA, pour politiser un peu le regard, justement. C'est un peu ce que vous nous expliquiez, justement. Comment, justement, ça s'ancre la SSA dans ce contre-modèle agricole, ce contre-modèle économique aussi, et comment éduquer au regard là-dessus, quoi.
Ouais, c'est vrai que nous, on s'est dit vraiment un des premiers points, c'est pour ça qu'on milite pour, mais c'est qu'on se réapproprie notre système agroalimentaire aujourd'hui, qui nous dépasse. Et la fresque de la sécurité sociale de l'alimentation qu'on a créée, c'est un outil d'éducation populaire pour essayer à la fois d'informer sur le fonctionnement actuel, de se dire, bien que l'aide alimentaire, par exemple, soit indispensable, on la paye, nous, parce qu'on défiscalise les dons que font les grandes surfaces à l'aide alimentaire. Donc, on maintient des gens dans cette forme de précarité alimentaire, alors que ce n'est pas notre seule solution, ou d'apprendre qu'il y a des centrales d'achat qui ont tellement de pouvoir. Il y a 4 centrales d'achat qui contrôlent le marché aujourd'hui. Et c'est vraiment des choses, quand on fait ces fresques, cette première partie qui est sur notre système agroalimentaire, la deuxième partie c'est vraiment sur le fonctionnement de la SSA, mais on a gardé cette première partie sur la compréhension du système agroalimentaire parce qu'en fait on le connaît pas, et de politiser, c'est un peu comme l'aspect des conventions citoyennes pour le climat, mais en fait de dire si on informe correctement chacun et chacune sur le système agroalimentaire, alors c'est vraiment la première étape et une étape fondamentale pour pouvoir renverser les choses et de mettre en place ce système révolutionnaire.
Merci Charles Fournier. Un peu la même question, mais voilà, on voit que des initiatives aussi simples que la mise en place d'un régime végétarien, par exemple, dans les cantines scolaires, suscitent des réactions un peu indignées. Comment, du coup, à une plus large échelle, aller vers un changement de système agroalimentaire plus global ?
Peut-être un des deuxièmes freins, mais ça permet de faire le lien avec ce que vient de dire Adi, ce serait que cette très belle idée reste une idée partagée dans une forme d'entre-soi, de gens un peu déjà convaincus. Et il y a un enjeu de popularisation de ces questions-là, de réappropriation, je pense que c'est le bon mot. Et voilà, mais comme nous connaissons la sécurité sociale, moi j'ai fait des fausses cartes vitales alimentaires. Je l'ai cherchée tout à l'heure pour vous la montrer. Mais il me suffisait de montrer cette carte pour que tout le monde comprenne. Vraiment, franchement, et il n'y a pas besoin de très très longs discours. Ça explique parce qu'il y a une référence. On a une histoire, chacun et chacune, avec cette sécurité sociale. Et donc, je pense que le moyen de faire que cette idée propage dans notre société, c'est justement de l'accrocher à cette histoire-là. À l'idée qu'aujourd'hui, on devrait mettre en partage, avoir plus de systèmes de solidarité. Ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour d'autres questions. Et je pense que c'est ça qui va lui donner de la force. Parce que là, il y a un risque, oui, qu'on finisse une belle... C'est vrai qu'il y a une affaire de rythme. Oui, il faut aller, faut prendre le temps, mais il faut aussi que qu'on crante des éléments. Parce que sinon, le risque, c'est que la belle idée, elle reste une belle idée pour quelques-uns. J'ai en tête les monnaies locales, qui était une super idée, qui peut très bien se marier. Mais il y avait les monnaies locales, elles se sont un peu rétractées sur elles-mêmes. Elles ont perdu de la force qu'elles pouvaient avoir parce que le temps a été très long. Il n'y a pas eu de cadre qui a été donné. Quand je dis de cadre, ce n'est pas pour l'enfermer, mais c'est pour la rendre possible. Voilà. Et je trouve que notre rôle, nous, législateurs, c'est de faire en sorte que ce qui s'expérimente par étapes puisse progresser et s'inscrire dans le dur, dans notre droit, voilà, et pas comme une belle idée pour quelques-uns.
Et justement, là, vous avez dit que c'était une belle idée, ça fait partie des belles idées qui existent, et ce sera malheureusement la dernière question, mais on peut voir qu'il y a une vraie peine à gauche notamment à imposer ces thèmes dans le débat public, parce qu'il y a une offensive réactionnaire dans les médias, dans le politique aussi, et donc dans cet imaginaire de la sécurité sociale, est-ce qu'il y a aussi un moyen de convoquer un imaginaire préexistant vraiment acquis par la gauche plutôt qu'essayer d'en créer un nouveau face à cette portée des discours de droite et d'extrême droite.
Oui, mais c'est un peu ce que je disais. Moi, je vais vous dire, moi, ça m'a fait du bien de défendre cette idée à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres. Je travaille sur, les droits de la nature, par exemple. C'est absolument passionnant. Mais ça m'a fait du bien parce que j'avais l'impression de pas jouer en défense, mais de jouer en attaque, pour faire une métaphore footballistique ou autre ou sportive. J'avais l'impression là de me projeter, de raconter une histoire, de pouvoir emmener les gens. Alors que quand j'empêche la loi du plomb, puisque vous l'avez évoqué, bah, ça me plombe, si je peux me permettre ça, parce que c'est terrible. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on recule ? On a bataillé, on a gagné des choses, et là, on est en train de reculer. Là, on ouvre, voilà, et effectivement, on convoque des imaginaires de solidarité, des imaginaires qui sont ancrés dans nos vies, dans nos territoires, et ça fonctionne. Et la gauche, elle a une histoire, et il faut qu'elle assume cette histoire-là et qu'elle la mette au goût du jour.
Peut-être la même question pour Andy, sachant qu'effectivement, à côté de ça, dans le peu de discours que réussit à porter la gauche aujourd'hui, effectivement, c'est des lois d'opposition ou de pallier des problèmes qui existent. Par exemple, une des grandes causes de la gauche qui est légitime, mais c'est l'augmentation du SMIC. Mais c'est entre guillemets que l'augmentation du SMIC, quoi. Là au moins, c'est un truc qui fait rêver, quoi. Ça vous fait agir aussi, ça vous fait tenir.
Ah mais complètement, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment de militer pour. Ça fait du bien, et c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est quand nous, on a été recrutés 100 personnes pour participer à notre expérimentation, en fait, on a été surpris à quel point c'était facile. Parce que de rentrer par le biais de l'alimentation et se dire que tout le monde aujourd'hui devrait avoir accès à une alimentation digne et de qualité, ça parle. Et ça parle un peu à tous les bords, quand même, finalement. C'est pas juste un truc de gauche. Et puis, de temps en temps, quand on nous dit mais vous êtes utopiste, vous êtes jeune, bah ouais, mais en fait, on l'a déjà fait. Il y a déjà là pour la sécurité de la santé. Enfin, on a réussi à faire ça. On a réussi à augmenter notre espérance de vie d'une dizaine d'années avec la Sécu. Enfin, en fait, on peut aujourd'hui le refaire. Enfin, on l'a déjà fait. C'est pas vraiment complètement fou. C'est vraiment, on rajoute une branche à la Sécu. Enfin, en fait, c'est pas si incroyable.
Merci à vous deux. Malheureusement, on n'a pas le temps de poursuivre, mais on va rester justement sur cet espoir pour l'alimentation. Merci. Donc Charles Fournier, vous êtes député de l'Indre-et-Loire et vous avez proposé une loi donc sur la SSA et a dit vous militez.
C'est bon, on commence à plus avoir le
sein du collectif La Marmite Rouge. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, chers publics et chers auditeurs et auditrices, restez avec nous.
Et oui, et on va, sous vos applaudissements, laisser la personne qui va commencer la première chronique. Et c'est Delila. Delila qui arrive sous les applaudissements.
Sous un tonnerre d'applaudissements.
Et oui, bonsoir Delila.
Bonsoir Simon.
Ça va bien ?
Ben oui, ça va très bien.
J'ai pas de lancement, donc...
Eh ben écoute...
Après, je sais pas imprimer tes feuilles, donc...
Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, je peux faire avec mon téléphone. Alors, du coup, cette semaine, comme on est en direct depuis la buvette du climat, j'ai décidé qu'on allait parler, eh bien... du climat. Alors, petite définition, le climat, c'est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. En gros, le chaud, le froid, les anticyclones et tout. Et ce climat, c'est le sujet de la conférence de Nice à laquelle prend part notre fidèle chef d'État, qui est le champion de l'écologie, comme chacun le sait. Parce que j'entends vos petits commentaires narquois comme quoi Emmanuel Macron serait aussi utile pour la planète qu'une prothèse en forme de crochet pour se gratter les couilles. Mais il est bel et bien actif. Il fait que tweeter sur la conférence. Carrément, j'ai l'impression de voir un live feed beaucoup trop détaillé, genre 10h01. Après un petit déjeuner équilibré, deux tartines beurrées, un biscuit, un café et un verre de jus d'orange, les participants sont priés de se rendre en salle de réunion. Tandis que certains s'affairent à de franches discussions et autres tableaux d'eau de vrais bonhommes, d'autres décident de se rendre au water afin d'épurer leur organisme grâce à l'action de leurs reins. L'un d'entre eux pense « Tiens, est-ce que j'ai bien éteint le gaz hier soir ?» Tandis que dans la cabine d'à côté résonnent les échos d'une lutte terrible entre les sphincters d'un collaborateur parlementaire et le cassoulet d'hier soir. Alors après, cette conférence des Nations Unies sur les océans, elle a l'air d'avoir bon fond et de vouloir, à défaut de promettre des changements radicaux, au moins faire bonne impression. Pour vous faire une chronique éclairée, je me suis lancé dans la lecture des consultations de sociétés civiles qui ont précédé cette conférence. Et dans les actions listées, j'ai trouvé lancement de l'initiative « Let's be Nice to the Ocean ». Voilà, Nice comme la ville. Hein. Donc le jeu de mots m'a renvoyé en 2005, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé Jean Dujardin pour lui faire casser la menace qui passe sur l'océan. Soit dit en passant, je pense qu'il y a un remake du Prince d'Égypte à faire avec Brice de Nice qui casse la mer en deux. Mais surtout, « Let's be nice to the oceans ». Genre, soyons gentils avec la planète, c'est trop mou. Tous les mois, on a des manifs pour le climat avec des pancartes genre « bouffe ma chatte, pas la planète » ou « encule-moi, pas le climat ». Alors, je sais pas, alors, c'est des initiatives choc du genre « pour les océans, lèche mon océan » ou « ta mère qu'on doit danser le long des golfes clairs ». Ce travail de documentation de haute volée m'a aussi permis d'apprendre que les Nations Unies sont, je cite, « en faveur des océans ». Et ça me rassure, parce que moi qui croyais que les gens des Nations Unies étaient faits en barbe à papa et évitaient la flotte de peur de mourir, j'ai eu du mal à m'imaginer quelqu'un qui serait contre les océans. Genre son cheval de bataille, c'est « alors on va vider les océans, et puis comme ça on aura plein d'espace en plus, on va faire des laser games et des bowling, et puis j'inviterai tous mes copains ». Mais bon, peut-être que s'il existait, ça contrebalancerait la montée des eaux. D'un côté, il y a les capitalistes qui réchauffent le climat, et de l'autre côté, il y a les grands enfants qui écopent pour vider les océans. C'est un équilibre parfait pour durer, je sais pas, 3 ans max. Donc je vous ai donné la définition du climat tout à l'heure et en voici une autre. l'ensemble des conditions de vie, des circonstances, le milieu, l'ambiance, le contexte, par exemple le climat politique. Et pour le coup, ce climat politique, il est délétère. Et Macron, il est un peu moins loquace à ce sujet. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces israéliennes ont arrêté un voilier humanitaire avec à son bord 12 activistes, dont Greta Thunberg, l'eurodéputée Rima Hassan et des journalistes. Ils ont été arrêtés dans les eaux internationales, ce qui, je le rappelle, est illégal. Après, j'aime pas trop rappeler qu'il y a des trucs qui sont illégaux, parce que ça me rappelle les étudiants en droit qui sont obsédés par leur sujet et qui sortent des trucs genre... Mais enfin, la police ne peut pas avoir tué un jeune parce qu'il était arabe, car c'est interdit par le code civil. Et Israël ne peut pas avoir balancé des bombes sur des innocents en Palestine, car cela contreviendrait au droit international. De toute manière, Israël n'en est pas à son coup d'essai. Depuis fin 2023, Benjamin Netanyahou a entamé sa transformation en Gérard Depardieu à force de violer le droit international. On espère juste que Macron va sortir les doigts du cul et faire un petit effort, hein, les conditions de détention étant particulièrement déplorables. Certains militants sont déjà repartis, mais ils ont dû signer un papier comme quoi ils étaient entrés illégalement en Israël. Je rappelle que c'est pas vrai, il y a une tendance à tordre la réalité. Tandis que le reste de l'équipage est toujours détenu. En tout cas, toutes blagues à part, force aux personnes encore détenues par Israël. On appelle évidemment à leur libération, à la fin du génocide et de l'apartheid. Voilà, la lutte continue, camarades.
Merci beaucoup, Delila, qui a ouvert le bal des chroniques. Merci beaucoup. Il est 19h42. On remercie encore nos invités d'être venus à notre micro. Et si vous voulez nous rejoindre à l'Académie du Climat pour cette matinale zygomatique, vous avez encore le temps, contrairement à Brian Wilson, qui lui n'en a plus. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. C'était... Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'était I Get Around des Beach Boys. Les Beach Boys dont les fans, les très nombreux fans sont en deuil après l'annonce du décès du chanteur du groupe, Brian Wilson, à 82 ans. Une minute de silence a été observée par ses fans. C'était à l'EHPAD La Roselière dans le Loir-et-Cher.
La matinale zygomatique.
Il est 19h45, on est vraiment en direct et vous écoutez
bien sûr,
la matinale
comme depuis le début
zygomatique.
De
on est en direct et en public de l'Académie du Climat à Paris.
Est-ce que vous êtes toujours là, l'Académie du Climat? Et ben voilà.
Et c'est à moi d'annoncer la chronique de Léo. Bonsoir Léo.
Bonsoir.
Tu veux nous parler de l'orientation des étudiants?
Alors voilà, c'est un sujet sérieux, mais sur les jeunes, puisqu'on est une radio étudiante quand même. Et on va parler des résultats d'une enquête d'opinion qui est sortie là il n'y a pas longtemps, en juin, sur l'orientation des jeunes. Et puis la mettre en parallèle avec la réforme de l'orientation proposée par Elisabeth Borne. Donc c'est un sondage d'opinion web et du Mapper qui interroge plus de 1000 jeunes de 18 à 24 ans sur l'avenir et sur l'orientation. Et on comprend dès le départ que les jeunes ne sont pas à l'aise avec ça, puisque 73% d'entre eux sont d'accord avec l'idée que l'avenir, ça fait peur. Et une des raisons qui explique ce malaise, c'est que 72% des jeunes estiment qu'au moins un acteur de l'orientation n'a pas suffisamment pris en compte ses souhaits. Ce qui montre bien là un vrai problème d'écoute dans le système actuel, c'est justement un point sur lequel Elisabeth Borne semble vouloir agir avec sa réforme. Elle annonce que les professeurs principaux de 3e bénéficieront d'une formation dès la rentrée prochaine, et aussi qu'un programme d'éducation avec des compétences à acquérir de la 5e à la terminale sera mis en place prochainement. Mais dans cette étude, on trouve des chiffres plus inquiétants aussi. Par exemple, on découvre que 6 jeunes sur 10 ne sont pas d'accord avec l'idée que les conseillers d'orientation au lycée aident vraiment les élèves. Et ça, c'est un peu problématique pour des professionnels formés, même s'ils font très bien leur travail. Pourtant, les jeunes ne demandent pas forcément des formations à gogo. Ce qu'ils réclament avant tout, ce sont des retours d'expérience, des témoignages, des avis d'étudiants, par exemple. C'est ce qui a le plus manqué à 31% des jeunes interrogés lors de leur choix d'orientation. Mais sur ce point, Elisabeth Borne reste floue et n'a rien annoncé de spécial. Par rapport aux inégalités à l'école, 66% des jeunes considèrent que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes opportunités d'orientation professionnelle. Là-dessus, Elisabeth Borne se dit consciente que l'orientation reste un des éléments centraux de reproduction des inégalités. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a annoncé ? Eh bien, déjà, il y aura les plusieurs demi-journées consacrées à l'orientation dans l'année, au collège et au lycée. Des rencontres parents-élèves-professeurs seront aussi organisées avant la fin du deuxième trimestre, en troisième et en seconde, mais rien de spécifique sur ces inégalités, donc ce sont des mesures qui paraissent un peu timides au vu de l'ampleur du problème. Sinon, le grand absent de cette réforme, c'est Parcoursup. Comme toujours, la ministre évoque à peine le rôle de Parcoursup, qui est aujourd'hui quand même une plateforme source de stress et d'incompréhension pour un grand nombre d'élèves et de parents. Parcoursup continue d'être critiqué pour son manque de transparence, alors que cette plateforme joue un rôle énorme dans l'orientation et dans le futur des jeunes, d'autant plus que 61% d'entre eux estiment ne pas avoir droit à l'erreur dans l'orientation professionnelle en France. Au final, cette réforme est pas mal, elle sera utile quand même si elle est complètement mise en place et pas délaissée comme d'autres mesures. Cependant, il manque évidemment des sujets qui n'ont pas été abordés. Mais après, dans le contexte où on est, les ministres de l'éducation peuvent encore beaucoup se succéder, s'enchaîner, et les programmes d'orientation beaucoup changer, en bien ou en mal, on verra.
Merci beaucoup Léo pour cette chronique, merci beaucoup. Léo, donc on peut écouter aussi l'émission mensuelle, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, à l'oreille du monde d'actualité internationale et géopolitique.
C'est le samedi, c'est ça ?
Oui, à 17h30.
Le samedi à 17h30, une fois par mois. Merci beaucoup, Léo. 19h48, et on va passer au premier jeu de cette soirée. Est-ce que vous avez envie de jouer à l'Académie du Climat ? Et ce n'est pas n'importe qui va présenter le jeu, c'est le Père Fourin en personne. Voilà. Bonsoir Père Fourin.
Bonsoir Simon.
Qui représente bien l'aspect étudiant de notre radio.
Que nous appellerons Maxime par souci d'anonymat. Bonsoir Père Fourin.
Bonsoir. Alors, j'ai préparé un quiz en rapport avec l'alimentation. La première question est la suivante.
On peut préciser que dans le public, vous êtes autorisé à jouer.
Bien sûr, oui, oui, jouez. Vous venez,
après,
vous
je
venez.
Vais répondre à tout
vous
avant vous.
Vous levez la main,
bon,
vous venez. C'est vraiment grave. Parce qu'elle est HPI.
Bien sûr. Donc voilà, la première question, c'est une question par rapport au Kinder.
Oui.
En 1968, la marque Ferrero lance le Ferrero Junior. Il s'agit du premier Kinder.
On va faire des clés. Bien sûr, pour
ouais, Père Fourin, tout ça, il la rend. Il s'agit du premier Kinder commercialisé, puisque ce produit change de nom en 1978. De quel Kinder s'agit-il ? En gros, quel est le plus vieux Kinder commercialisé ? Oui.
Le Kinder Maxi ?
Non. Pas Country, pas Bueno. On va le trouver au final.
Le Kinder Maxi ?
Non, pas Maxi.
C'était ma réponse.
Ce qu'on vient de dire, il y a vraiment 30 minutes.
Sophia ?
Pas Chocobon.
C'est Pingoui.
Pas Pingoui.
On a Pingoui à droite.
Chocolat, oui. Qui l'a ?
Il est allemand, c'est évidemment. Non, c'est Philippe Fischer. Oui, alors, c'est
Philippe, bravo. Le Kinder chocolat est le plus vieux Kinder qui a été commercialisé. La question suivante. Je vais vous lire. De parler avec le ventre, ça va mieux. Je vais vous lire. Non, ça va pas mieux. Je vais vous lire une recette de cuisine. Dès que vous pensez que vous avez la réponse, vous m'interrompez, vous me donnez la réponse.
Il faut qu'on donne le nom de la recette, enfin, le nom du plat.
Okay. T'es prêt ?
On te dit stop si tu vois pas le public qui lave la main.
Attention. Étape 1. Faire revenir la viande dans un peu de beurre doux jusqu'à ce que les morceaux soient un peu dorés.
Sophie, oui.
On a quelqu'un dans le public ?
Le bœuf bourguignon.
Je regarde mais je crois pas. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas ça. Étape 2. saupoudré de 2 cuillères de farine bien remuée.
Dans le public, Gabriel.
La blanquette de veau.
Bravo, Gabriel.
En novembre 2010, à l'approche de Noël.
C'est nul comme recette, novembre 2010.
C'est une autre question. Naturellement. À l'approche de Noël, les restaurants Quick lancent un burger plus festif. Oui. À quoi ?
C'est Gauthier.
Le Koé Burger ?
Non.
Le Koé Burger ?
C'est pas le Koé Burger.
Koé de l'animateur Koé ?
Oui. Ah non, oui, c'est un hamburger. À quoi ? À virgule quoi ? Non, pas virgule. J'ai... À quoi pour l'interrogation ?
Au foie gras.
Au foie gras, bonne réponse. Oh, ouais. Bravo. Oh. Bravo. On peut applaudir.
On n'applaudit pas la recette, on applaudit Maïwenn, on précise quand même. Non, parce que vraiment, ça a l'air dégueulasse.
Après, burger au foie gras, moi je prends. Hein.
Ouais. Ah, c'était pas mauvais. En 1961, Jean Lozier et sa femme Arlette, ce sont des vrais gens, lancent une chaîne de restaurants reconnaissables par leur toit de chaume et leur cheminée. De quoi s'agit-il, Maïwenn ?
C'est Courte Paille.
Bravo. Bonne réponse, c'est Courte Paille.
Et oui.
En 2002, George Bush Jr., alors président des États-Unis, a failli s'étouffer en mangeant une pâtisserie salée.
Diane.
Avec un bretzel.
Un bretzel, bonne réponse.
Alors ça, excellent. Là, on est sur des.
Il y a des peintures. Hein,
il y a
là,
des gens qui s'ennuient dans le public. C'est vraiment. Il y a des gens qui se font chier, quoi.
Je termine la question. Une pâtisserie salée à base de pain brioché. C'était un bretzel. Citez-moi un des 3 desserts préférés des Français. Philippe. Non.
Oui.
Au fond, pardon. Pas le flan, non.
C'est bien parce que quand on
l'a... C'est bon, pardon. Oui, c'est bon,
oui. La mousse au chocolat.
La mousse au chocolat est une bonne réponse.
Bien sûr.
C'est le premier. Il y avait... Allez, une autre, une proposition.
La tarte aux pommes.
Tarte aux pommes, non. Crème brûlée, non.
Quelqu'un d'autre, Sofiane.
Alors, tarte au citron est une bonne réponse. Meringue, c'est pas précisé.
On a Nordine dans le fond.
L'éclair au chocolat.
Non, pas l'éclair.
Paris-Brest,
la millefeuille.
Les Français sont chiants.
Pas la religieuse.
Les lasagnes.
Non, oui. C'est pas les petits suisses.
Electra.
L'île flottante.
C'est pas l'île flottante. Oui.
L'île de Ré.
Pas le moelleux au chocolat. Non, c'est pas la tarte au chocolat.
L'île aux moines.
C'est pas français comme dessert. Le tiramisu. Bonne réponse.
Ah oui. Bravo. Ça précise si c'est au spéculoos ou au chocolat ?
Le tiramisu tout court.
Oui, bah, donc, au spéculoos donc.
Évidemment. J'ai pas cette granularité de précision. Alors, pour la question suivante, je vais vous citer 3 titres de films où il est question de nourriture. Un seul est faux. Il faut trouver lequel.
Okay.
Nous avons 1. L'attaque de la moussaka géante. 2. La vengeance de la paella masquée. 3. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Un seul n'existe pas.
La troisième.
Alors, qui pense que c'est la première qui n'existe pas ? On a 1, 2, 3 personnes.
C'est la troisième.
Qui pense que c'est la deuxième qui n'existe pas ?
Voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Attention
7, 8,
à l'orientation des mains quand on lève la main. Attention.
13. Et voilà. Qui pense que c'est la troisième ?
Oui.
1, 2, 3, 4. Bah, c'est bien la deuxième qui n'existe pas. La vengeance de la paille la masquée n'existe pas.
Mais la moussaka, c'est un remix des boulettes ? Ou c'est un juste, il y en a
c'est
2
C'est un moyen métrage. Je pense qu'il y en a 2. Non, mais c'est pas
un remix. Mais parce qu'il y a un film, L'attaque des boulettes géantes.
Oui. Oui. Enfin, mais c'est un film animé, ça.
Oui. Oui. Mais il a pas précisé oui. Un film en live action.
Oui, c'est vrai, j'ai pas précisé. Non, je crois que c'est deux choses. C'est deux choses différentes.
Je suis cinéphile.
Si vous nous dites des choses, vous n'êtes vraiment pas au micro. Hein, donc vraiment, on ne vous comprend pas. Mais.
Présenter un certain regard à Cannes, bien sûr.
Ah oui, oui.
Quelle différence y a-t-il entre une tarte salée et une quiche ?
C'est non.
Pas la pâte.
Non, c'est la.
C'est l'appareil.
C'est la crème. Est-ce qu'il y a du lait ou non ? Ou est-ce qu'il y a des œufs ?
J'ai entendu.
Ou est-ce qu'il y a de la crème ?
L'appareil.
Ou est-ce qu'il y a du.
Le liant.
Oui,
bonne
c'est
réponse.
C'est, bon,
c'est à peu près ce que j'ai dit. Oui,
hein, Mercotte appelle ça l'appareil, si je peux me permettre.
Liant, l'appareil, ok, d'accord. Voilà, normalement, il n'y a pas de liant dans une tarte salée. Ensuite, citez-moi un des 3 premiers plats du top 20 des plats de vieux, ceux que tu ne peux apprécier qu'après 60 ans, de Topito.
Ah ouais.
Le pot-au-feu.
Il y a des gens
le
qui
pot-au-feu, s'ennuient. Non.
Le
cassoulet, non. Ardi au jambon, non. Ah, c'est pas dans les 3 premiers, mais ouais. C'est l'été, mais pas les quenelles.
Les quenelles.
Non.
La langue de bœuf, dit-il.
La langue. Non, pas la langue de bœuf. Mais pas loin. Pardon ? Non. Ça y était, mais pas les trois premiers. Non plus, plein d'ouillettes. Il y a un dessert aussi. Il n'y a pas les tripes.
Il y a un dessert aussi.
Il y a un dessert aussi. Il y a deux plats salés et un dessert.
Le riolet ?
Non.
Le trou normand.
Non, pas le trou normand.
C'est pas un plat, non ?
Oui.
Alors, quelqu'un a dit la langue de bœuf, c'était pas loin.
Les tripes ? Le tripou ?
Non.
La joue de porc.
Le pied de porc.
Non, plus large que ça. Non.
Le cervelet ?
Non.
Les rognons.
C'est pas le cervelet non plus.
Pas les rognons, pas les abats. Pardon ? Pas la côte de porc.
Côte de porc était proposée. Si.
Alors, ça se rapproche de la langue de bœuf, mais il faut voir plus large.
La tête de veau.
Tête de veau. Ouais, voilà. La tête de veau, bravo, c'est une bonne réponse. Allez, j'arrête de vous torturer.
On va devoir s'arrêter, malheureusement.
D'accord, ça marche.
Merci. Bah oui, mais il faut qu'il prépare les épreuves parce que Fort Boyard reprend bientôt. Donc il faut qu'il.
Exactement.
Bien sûr. Non, tu restes avec nous.
Oui, tout à fait.
Pour écouter Sofiane, évidemment.
Bien sûr.
Et Sofiane, à l'Ouest, quoi de nouveau ?
Oui. Déjà, bonsoir tout le monde pour commencer, coucou. Moi, c'est Sofiane. Et puis, c'est ma première fois à la matinale zygomatique Matmonde qui se passe à l'Académie du Climat ce soir.
Sofiane, c'est la première fois qu'on fait une matinale zygomatique Matmonde à l'Académie du Climat ce soir, en plus. Ouais.
Oui, merci Simon, mais du coup, c'est aussi ma première fois.
Oui,
donc j'aimerais le rappeler quand même. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, comme pour les personnes qui le savent et celles qui ne le savent pas, je fais une chronique sur la gauche dans le monde zygomatique. Et ce soir, je voulais revenir sur une idée qui me turlupine un petit peu depuis quelques semaines, et notamment depuis, si vous l'avez vu, le fameux débat entre Wauquiez et Bompard, la post-vérité. Alors, la post-vérité, c'est quoi ? L'expression post-vérité apparaît en 2004. Sous la plume de Ralph Keyes, qu'il utilise dans son livre « The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life ». Est-ce que tu peux nous faire la traduction, Simon, s'il te plaît ?
Oui.
Merci beaucoup, Simon. Et donc, en fait, la post-vérité, c'est quand on accorde plus d'importance aux faits et qu'on accorde simplement de l'importance aux émotions, aux ressentis. C'est comme, si vous voulez, un débat Twitter, mais avec peut-être un peu plus de caractère et entre personnes dans la vraie vie. Quoi, c'est la victoire du « je le sens » sur « je le sais », du « ça me touche » sur le « c'est prouvé », du « je choisis de croire » sur le « voilà les faits ». C'est en gros, si vous voulez, dire n'importe quoi, mais avec une conviction béton. Et le problème, c'est que la droite a colonisé très tôt cette notion de post-vérité, comme par exemple, elle aurait colonisé à peu près le monde entier, en fait. Et suite à ces victoires électorales récentes et à la montée notamment du populisme en ce moment, une question, en fait, donc, me revient assez régulièrement. Pourquoi est-ce que la gauche ne s'empare pas de cette post-vérité ? À bas les chiffres et les citations, à bas les études du GIEC et du CNRS, bonjour les ressentis, les pensées furtives et les mensonges à gogo. Alors, prenez des notes, s'il vous plaît, sortez vos bloc-notes et vos stylos amis de gauche, et voici un florilège de contre-vérités à prononcer lors de vos prochains meetings de campagne. C'est dommage, le député est parti, il aurait pu prendre des notes. Ou lors de vos prochains débats de tractage. Alors, la première que j'ai notée, c'est « Avec l'argent que la droite a volé, on aurait pu subvenir aux besoins de l'hôpital public. » merde. Non, attends, parce que ça, c'est vrai.
Oui,
merde.
Ça, c'est vrai.
Attends,
oui,
pardon. Autant pour moi, pardon. dans la même vibe, les milliardaires, ils volent tout l'argent. Pardon. Je recommence. Oui. Barré, on recommence. OK, on vous manipule, les médias vous manipulent. Les ultra-riches du type Xavier Niel, Bernard Arnault et Bolloré, c'est eux qui les contrôlent.
Alors, ouais.
Merde. Ouais. OK, donc pour faire la peur, en fait, on peut pas faire peur aux gens parce que... Merde, OK. J'en ai un. OK, celle-là, c'est du béton. Le capitalisme est une invention de l'Académie française pour détruire les accents circonflexes. Ça, franchement, ça passe parce que les gens qui sont contre la réforme de l'orthographe et contre le capitalisme, ça peut faire le lien dans leur tête, quoi, vous voyez ? Donc, s'il vous plaît, camarades, il est temps de saisir cette possibilité. Tout le monde devient post-vérité et gagner grâce aux mensonges, les prochaines élections et changer la face du monde. Merci beaucoup.
Bravo, Sofiane, qu'on peut applaudir. Sofiane, qu'on entend évidemment tous les mercredis,
s'il vous plaît,
dans le monde zygomatique.
Et c'est génial, mais on n'a même pas besoin de meubler.
C'est un grand plaisir, on n'a même pas besoin de meubler parce qu'il est déjà 20h. Et ça, c'est formidable. Ah oui, parce qu'il y avait une blague de... Oui,
ça
bien
fait
sûr.
3 semaines que je la prépare, ouais. Je voulais la dire
mais
quand même.
Mais ça, c'est une surprise, elle n'était pas écrite en plus, donc c'est vraiment... Il est 20h et on va retrouver évidemment
Manon, de la rédaction de la matinale, qui va nous présenter le flash info de la matinale.
Bonsoir Manon, il est 20h01.
Bonsoir.
On laisse l'équipe éthique, on peut applaudir Thomas qui a réalisé la première heure de cette émission. Avant de passer le relais à Gabriel.
La suite de ce crossover est disponible sur la page du Monde Zygomatique sur radiocampusparis.org et sur votre application de podcast préférée.